I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Prêtre au Lila en Seine-Saint-Denis, Marc Fassier a été suspendu au mois de mai par son diocèse et par l'Institut catholique de Paris où il donnait des cours. Le problème, c'est qu'il est tombé amoureux d'une paroissienne, Ingrid, avec qui il vit en couple aujourd'hui. Marc et Ingrid racontent leur histoire dans Code Source au micro de Claudia Prolongeau. Ils l'ont reçu chez eux à Bagnolet.
Je rencontre Marc et Ingrid dans leur pavillon à Bagnolet, une commune limitrophe de Paris. On s'installe dans le petit jardin fleuri sur la grande table qui sert à prendre les repas depuis que les beaux jours reviennent. Il fait chaud, mais il y a quand même un petit vent qui fait teinter le carillon installé au-dessus de la porte. Ingrid a 46 ans, elle est professeure de piano et vit dans cette maison depuis 25 ans. Elle y a élevé ses 5 enfants, d'abord avec leur père, puis seule, depuis leur séparation en 2018, parce qu'il était violent.
Je suis née dans une famille croyante et très pratiquante, mais pas au sens tradit du terme, quoi. C'est-à-dire que ce n'était pas la prière tous les soirs, ce n'était pas non plus le bénédicité avant chaque repas. Ça fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que je ne vais pas me donner un moment dans la journée à dire « Tiens, tous les soirs, je fais ma prière » ou « Tous les matins, je fais ma prière ». C'est quand je vais marcher, c'est quand je vais... Mais effectivement, la foi est très importante pour moi. Moi, je suis tombée enceinte très jeune, à 21 ans. Et mes parents... Alors, j'étais enceinte, donc il fallait que je me marie, quoi. Et du coup, je me suis mariée à l'église parce que ça fait partie de mes convictions, qui n'étaient pas celles du père de mes enfants. C'est vrai que c'était très compliqué dans le sens où j'avais dit oui devant Dieu, quoi. Enfin, j'avais dit oui, et du coup, on dit mais pour le meilleur et pour le pire. Sauf qu'effectivement, quand ça devient que du pire, il y a un moment où on se pose des questions. Et cela dit, j'ai eu des réflexions quand même de maman, de femme que je connaissais de l'école, où on me faisait gentiment comprendre qu'il fallait que j'accepte et que je me taise, quoi. Enfin, ah, quand même, hein, tu peux faire un petit effort, hein, alors que je vivais quand même... des choses très dures, quoi.
Marc, lui, est prêtre. Il a 3 ans de moins, a grandi en Seine-Saint-Denis et a eu l'idée de se tourner vers une vie religieuse à 17 ans.
Au début, je voulais être moine. C'était une époque où j'avais une sorte de soif d'absolu. Et puis, un jour, un ami d'ailleurs m'a invité à aller dans un monastère. Et là, j'ai vu la vie de ces moines cloîtrés dans un monastère. Prier nuit et jour, tout est orienté vers Dieu. Donc moi, cette espèce de radicalité, c'est vrai, m'a parlé. Et puis, en fait, il s'est trouvé que lors d'une soirée, d'un groupe de jeunes dans ma paroisse, il y avait un prêtre qui était présent. Il m'a parlé de la vocation de prêtre, voilà, et j'ai été pris un peu dans cette vocation. Et puis je suis rentré au séminaire, et puis j'ai été ordonné prêtre en 2004. J'aime la théologie, j'aime la philosophie, j'aime tout ce qui est recherche de sens. Voilà, j'ai la foi et je la partage. Et à l'époque, à 18 ans, quand vous dites, moi, ma soif d'absolu, c'est de donner tout à Dieu. Et voilà, bah, vous, à 18 ans, vous acceptez la règle. Et vous vous dites, bon, bah, oui, ça va marcher, quoi.
C'est pour multiplier les occasions de partage que Marc est aussi devenu enseignant à l'ACATO, l'Institut catholique de Paris, une université privée. Dans sa paroisse aussi, au Lila, il passe beaucoup de temps à échanger avec les fidèles, qui sont nombreux et l'apprécient. Ingrid en fait partie.
Je me souviens d'une fois où ils célébraient un baptême. Alors, la configuration de l'église fait qu'en fait, c'est une église qui est très moderne, très lumineuse, etc. Et en fait, une fois, j'étais en haut et je surplombais donc l'assemblée. Et je le regardais et je me disais, mais quel gâchis, en fait, parce que je l'imaginais père, je l'imaginais compagnon, je me disais, mais c'est dommage que les prêtres ne puissent pas se marier. Voilà, c'est quand même dommage que tous ces hommes, pour la plupart, qui ont quand même une grande richesse humaine, intellectuelle, etc., je trouvais ça vraiment, ouais, un gâchis, quoi. Et donc, je me souviens de l'avoir regardé, et puis je me dis, en plus, il est pas mal, physiquement. Et voilà.
Je me souviens d'un souvenir, c'était une sortie d'école, parce que l'école touche, on va dire, les locaux de la paroisse. Moi, je revenais d'un footing, et puis Ingrid parlait avec une autre maman. Alors là, quand j'arrive d'un footing, en général, je suis un peu regardé comme un extraterrestre, donc je rentre vite chez moi. Et là, Ingrid simplement vient vers moi pour me dire bonjour. Et là, je sens que je suis pas regardé comme un être bizarre. Et ça fait du bien.
Ingrid est très investie dans la paroisse. Elle est responsable des enfants de cœur, fait l'accueil une fois par semaine et est aussi écoutante pour ceux qui ont besoin de partager leurs souffrances ou leurs craintes avec une oreille attentive. Mais c'est à l'occasion de la préparation du baptême de son cinquième enfant que Ingrid et Marc vont vraiment se rencontrer, en 2017. Début 2018, Ingrid se sépare du père de ses enfants. Dans la paroisse, elle sent que certains sont réprobateurs, mais pas Marc. Ils continuent donc d'échanger régulièrement, sur leurs lectures respectives notamment, et sur l'actualité. Fin 2018, un jour où Ingrid va prendre le thé chez Marc, leur relation bascule.
Ce jour-là, je sais pas, on avait dû parler de choses peut-être plus, je sais rien, peut-être plus profondes, je sais pas. Et au moment de partir, en temps normal, on se faisait la bise et puis je l'embrassais sur la bouche. Et ouais, je sais pas, j'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, après, je m'en suis voulu terriblement. Ça, c'était, j'ai culpabilisé, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai eu peur de casser une amitié que je trouvais très très belle et que j'ai rarement rencontrée dans ma vie. Avec un homme, je me disais c'est beau parce qu'on arrive à se parler sans qu'il y ait d'ambiguïté, etc. Et puis,
Tout de suite, Ingrid m'a envoyé un message en me disant je suis désolé ou voilà, oublions ça. Et en fait, je me dis c'est ce qui devait se faire là à ce moment-là. Alors, si certains considèrent dans la religion que le péché c'est une faute contre une règle, une norme. Alors oui, ça serait un péché. Mais pour moi, le péché, c'est ne pas respecter l'appel profond de Dieu. Ce à quoi Dieu nous appelle profondément pour notre bonheur. Et donc moi, j'ai toujours été attentif à ça dans ma vie, de me dire, mais quels sont les signes qui me sont envoyés pour entrer sur un chemin de bonheur.
Marc et Ingrid se voient de plus en plus souvent. Leur relation est de plus en plus intime, mais aussi de plus en plus secrète. Avec peut-être parfois quelques ratés.
J'ai le souvenir, moi, d'une fois, on était sur le quai du métro. Donc du coup, forcément, on était très vigilants, on ne se donnait pas la main. Et le dimanche qui avait suivi, il y avait une paroissienne qui était venue me voir. « Ah, je vous ai vu sur le quai du métro, Je lui avais dit « Ah oui, on est allé voir une expo ». Et après, je pense qu'on a été vus sans qu'on sache qu'on était vus.
Assez vite, il a été clair que je voulais assumer publiquement ce qu'on vivait. Malheureusement, je trouve que la foi de beaucoup de catholiques... est très lié à cette figure du prêtre célibataire. Alors donc c'est l'impression que c'est un quasi-dogme, quoi. Alors c'est une règle disciplinaire qui date du XIIe siècle. Donc l'Église a vécu pendant 12 siècles sans cette règle disciplinaire. Voilà, donc je veux pas choquer les paroissiens, la foi des paroissiens. Donc je veux faire les choses tranquillement. Et j'ai la chance en plus d'être enseignant à côté à l'université. Donc en 2020, je sais que je vais aller voir l'évêque pour lui dire « je veux quitter ma paroisse tout en continuant à être enseignant à l'université ». Je lui dis ça, je lui dis voilà, j'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de prendre du recul, donc j'aimerais quitter la paroisse. Donc il me dit, mais tu veux quitter ton ministère? Ben, je lui dis, c'est une réflexion en effet que je me pose. Et puis c'est là qu'il me dit, j'ai reçu une lettre anonyme te concernant, concernant ta relation avec une certaine Ingrid. Ouais. Bon, je lui dis, bah oui, c'est vrai, c'est pour ça que je veux réfléchir, parce que voilà, j'ai rencontré cette femme et il y a une histoire d'amour qui se construit entre nous, et donc c'est pour ça que j'aimerais prendre du recul. Et voilà, donc, alors c'est là qu'il me dit, je t'invite à prendre de la distance, sous-entendu avec elle, avec Ingrid, à suivre une thérapie. Et je t'envoie dans une paroisse le week-end. Donc là, je pense qu'il se dit, je vais le retenir. J'ai un an pour faire en sorte qu'il change d'avis.
Marc est donc envoyé dans une paroisse à l'autre bout du département. Et sans surprise, ça n'entache en rien sa relation avec Ingrid. D'autant que peu de temps après, le confinement et la vie stoppée net en 2020 leur permet d'être ensemble tout le temps. Au mois de mai 2020, la journaliste Justine Rodier enregistre pour la boîte de production Louis Média un podcast dans lequel Marc et Ingrid, sous pseudonyme, racontent leur histoire d'amour. Environ un an après son premier rendez-vous avec l'évêque, le 10 mai dernier, Marc en prend donc un autre pour lui confirmer ce qu'il lui avait dit. Il va bien quitter son ministère et ses fonctions de prêtre pour se consacrer à l'enseignement, à Ingrid et à ses enfants.
C'est lors de ce rendez-vous que moi j'ai pris, qu'il me parle de ce podcast, me disant qu'il était blessé, alors que je ne fais aucune référence à l'Église ou à lui. C'est vraiment un témoignage sur notre itinéraire personnel. Et que, de ce fait, il choisit de me suspendre à divinis, comme on dit dans le droit canonique. Ce qui signifie suspendu de toutes les fonctions, tâches du ministère de prêtre. C'est un décret de droit divin. J'ai l'impression de vivre dans une sorte d'absurdité totale, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis amoureux et je vais respecter la discipline, je vais quitter mon ministère pour être en accord avec la discipline de l'Église. Et là, c'est un coup très violent qui m'envoie en me disant, c'est une sanction, quoi. Tu es sanctionné parce que tu as fauté, tu es coupable. Quand j'ai reçu ce décret, j'ai pensé à des prêtres dont je savais qu'il y avait eu des témoignages contre eux d'abus sexuels. Ils n'ont jamais été suspendus à divinis. On les a déplacés. Je ne comprenais pas ça.
Marc le comprend d'autant moins qu'il est entre-temps rentré en contact avec d'autres prêtres dans la même situation que lui et qu'ils sont nombreux à être tombés amoureux et à ne pas pouvoir le dire et le vivre librement. Le jour même, Marc, qui doit donner un cours l'après-midi à l'ACATO, prévient l'université de sa toute nouvelle situation.
Je suis assez réglo, j'appelle les autorités de l'université pour leur dire « voilà, j'ai reçu ce décret, on me suspend de mes enseignements, et du coup, j'ai plus rien, quoi. À partir du 10 mai, je n'ai plus d'activité. »
Là aussi, il continue de toucher son salaire, comme ça aurait été le cas s'il avait pu donner ses cours jusqu'à la fin de l'année scolaire. Mais il n'a plus le droit, ne serait-ce que de rentrer dans l'université. Ingrid, de son côté, et malgré le soutien dont leur font part beaucoup de paroissiens, est écartée de ses responsabilités au sein de l'Église.
On m'enlevait des groupes WhatsApp desquels je faisais partie. Et en fait, je comprends que je ne suis pas la bienvenue. Donc un jour, je finis par prendre rendez-vous avec le curé qui a remplacé Marc. Je m'écarte sur table et je dis, qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Je suis virée de tout, personne ne vient me parler, personne ne me dit quoi que ce soit, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Et la seule chose qu'il a été capable de me répondre, il était super mal à l'aise, écoute, on m'a dit que tu étais trop présente dans la paroisse, donc il fallait te virer.
Marc s'inscrit à Pôle emploi, et le 3 juin dernier, il a son premier rendez-vous avec une conseillère.
Elle remplit mon dossier. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle ne trouve pas la case prêtre, hein, elle n'existe pas dans le logiciel. Et elle me dit, est-ce que vous avez une attestation employeur de votre rupture de contrat? Et là, je lui dis, non, je n'ai pas d'attestation employeur, j'ai un décret canonique. Et là, ça pose un problème, une question, c'est-à-dire que je continue de toucher un traitement de l'Église, mais moi, je veux toucher les allocations chômage. Voilà. Moi, je n'ai pas envie de vivre de la charité chrétienne, mais de la justice sociale. Qu'on m'attribue ce qui revient à chaque citoyen français quand il est viré de son boulot. On ne peut pas signer l'Église au Prud'homme parce que ce n'est pas une entreprise de droit privé. Mais de fait, je suis en train de voir avec un avocat comment on peut aller plus loin. Il me semble que là, il y a un problème de protection des individus. C'est pour ça, d'où mon combat.
Libre et heureux de l'être, Marc et Ingrid ont désormais d'autres projets.
Quand on a évoqué la première fois le fait de se marier, on s'était dit, bon, on aura nos témoins, puis voilà, on sera tout seul dans notre coin, parce qu'il y aura plein de gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Et puis, je lui dis, oh, regarde, Marco, on va se faire notre liste. Et alors, on était là, je marquais, puis je lui dis, ah, bah, il y a déjà plus de 100 personnes, en fait, et finalement, on ne va pas être tout seul, donc c'est, c'est très chouette.
Ça ne pourra pas être à l'église ?
Ça ne pourra pas être à l'église. Enfin, ça pourrait l'être, mais ce serait très compliqué. Il faudrait vraiment qu'on trouve un prêtre super cool. Moi, ce qui compte, c'est la relation que j'ai avec Dieu, et il sait ce que je vis.
Ce qui me touche encore, d'une certaine manière, c'est ce sentiment d'être condamné, alors que, en effet, ce que je vis, ben, c'est la recherche de quelque chose de sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T peut-être d'ailleurs. Et donc, ben, cette exclusion, quoi, et qui me paraît anti-évangélique.
Vous auriez aimé vous rester prêtre ?
J'aurais aimé continuer une partie, en tout cas, de ce ministère. Je pense qu'il n'est pas du tout incompatible avec une vie de famille. Et en plus, on aurait des prêtres qui seraient un petit peu plus au contact avec des réalités bien tangibles. Hein. Quand vous avez des enfants à la maison, quand vous avez des questions du couple et de la famille, c'est concret, quoi. Donc, je suis super heureux de trouver une foi super concrète. L'Église, là, s'interdit de voir que ça pourrait marcher.
Claudia, pourquoi est-ce que Marc et Ingrid tiennent à témoigner ?
Parce qu'ils ont l'impression, de manière générale, qu'il y a tout un tas de problèmes dans l'Église et qu'on ne peut pas en parler, qu'il y a des règles qui ne sont pas toujours respectées. C'est notamment le cas, là, pour Marc, qui est donc tombé amoureux alors qu'il ne devrait pas avoir de relation amoureuse. Et en fait, il a l'impression que ça ne serait pas forcément un gros problème de continuer à être prêtre en étant amoureux. Mais voilà, c'est un sujet dont on ne peut pas discuter dans l'Église. Et donc ça, ça les agace et ils ont envie de briser ce tabou.
Marc, il cherche du travail aujourd'hui ?
Oui, il vient de commencer à chercher, donc il n'a pas encore de retour, mais il postule dans l'enseignement supérieur puisqu'il a été directeur d'une chaire à la Cato, donc il a monté toute une formation universitaire. Comme cette chaire, ça concernait le bien commun, les RSE, il cherche aussi dans ces domaines-là. Et puis comme il a fait Sciences Po, il a une formation solide, il peut se permettre de postuler dans des cabinets d'entreprises publiques, dans des collectivités locales, et il le fait. Mais il élargit vraiment au maximum son panel pour pouvoir trouver du travail rapidement.
Est-ce que Marc et Ingrid continuent d'aller à l'église ?
Alors, pas du tout là où ils habitent, ni même dans les environs. Ils y vont presque plus, en fait. Mais de temps en temps, quand ils sont loin de Paris, ils se renseignent un peu sur le type de cérémonie que c'est. Et si c'est une cérémonie plutôt ouverte et qu'ils connaissent personne, oui, ils y vont.
Dernière question, Claudia. Est-ce que l'on sait s'il y a beaucoup de prêtres dans la situation de Marc ?
Alors, on ne sait pas exactement, je ne suis pas capable de donner des chiffres là-dessus, mais les prêtres eux-mêmes disent qu'il y en a beaucoup. Marc dit qu'il est en contact avec énormément de collègues et confrères qui sont dans sa situation. Il y en a quelques-uns qui témoignent, très peu. Donc, officiellement, on ne sait pas du tout, enfin, ou plutôt officiellement non, mais ce que me disent Marc et Ingrid, c'est qu'en fait, ils sont assez nombreux à avoir des compagnes ou des compagnons.
Merci Claudia Prolongeau et merci à Vincent Mongaillard pour son aide. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast comme Podcast Addict. Si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.